France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, la femme derrière elle. Épisode 1, Hélène Lazareff, la tsarine monte sur le trône. On comprend beaucoup de choses sur un titre de presse rien qu'en regardant son logo. Celui du magazine Elle est très simple en apparence. Seulement 4 lettres, celles d'un pronom personnel qui désigne la moitié de l'humanité. Un tout petit mot parfaitement symétrique, avec ses 2 L au milieu de ses 2 E aux extrémités, qui s'étalent tout en haut de la couverture. 4 lettres qui auraient pu être agencées et dessinées de 1000 manières. Mais Hélène Lazareff, sa fondatrice, a tranché. Elles seront étendues le plus possible vers le haut, placées au sommet de la page et étalées au maximum de sa largeur. On peut même dire que la hauteur des lettres du logo de L est totalement démesurée. Elles font penser au gratte-ciel de New York, cette ville où Hélène Lazareff a trouvé la majeure partie des inspirations qui ont servi au lancement de son magazine, quand elle s'y est retrouvée exilée durant la Seconde Guerre mondiale. Mais elles peuvent aussi faire penser aux célèbres sœurs de Staline, ces gratte-ciels de Moscou bâtis entre 1947 et 1953. Moscou, capitale du pays où est née Hélène Lazareff, mais qu'elle a fui avec sa famille dans un train de luxe spécialement affrété. Sur le marchepied du train, un cosaque les avait protégés durant toute la durée du voyage. Il avait une bouteille de vodka dans une main et un fusil dans l'autre. Voilà l'atmosphère dans laquelle a vécu Hélène Gordon Lazareff. Quatre lettres donc, E-L-L-E, tellement étirées qu'elles en sont presque illisibles. D'autant plus que bien souvent, une des lettres est escamotée pour laisser la place à un visage de mannequin. Le titre s'appelle alors E, L, tête de mannequin, E, ou alors tête de mannequin, L, L, E, enfin vous avez compris. Pour moi, ce logo raconte notamment la personnalité, le projet et l'histoire personnelle d'Hélène Lazareff. Vous aurez d'ailleurs remarqué qu'il est plus élégant que chaleureux, avec ses lettres espacées, bien stables malgré la finesse de leurs chevilles. D'une certaine manière, elles mettent un peu les lectrices et les lecteurs à distance. On ne peut pas dire qu'elles se tapent beaucoup dans le dos. Elles se donnent certes à admirer, mais le sous-texte c'est un peu « regarde, mais pas touche ». Voilà toute l'alchimie de elle, paraître suffisamment proche tout en restant inaccessible. Je précise que la police du logo est à empattement, car cela a son importance. L'empattement, c'est le petit trait qui prolonge les lettres, comme des petits pieds au bout de chaque caractère. Ils donnent un côté académique, clair et bien élevé. Et donc ce logo, il dit cela, cette rigueur un peu classique. Mais il dit aussi autre chose. D'abord, que ce magazine est une telle institution qu'on n'a même plus besoin de lire son titre pour le reconnaître. Même avec une lettre en moins ou avec le titre camouflé dans l'image, comme Charlie dans Où est Charlie, on le reconnaîtra toujours. Il dit enfin la passion de sa créatrice pour l'élégance, la beauté et l'esthétisme. Mais qui était donc cette femme qui a imposé ces 4 majuscules dans une société française en train d'accéder à la société de consommation? Qui était cette patronne capable de faire tenir debout ces lettres comme autant de statues imposantes? Quelle est son histoire et qu'a-t-elle traversé? Et puis aussi, comment s'est-elle comportée avec les autres pour parvenir à ce résultat? C'est tout cela que nous allons voir au cours de ce premier épisode.
La femme derrière elle. Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Charlotte Roux. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Mixage, Antoine Viossa.
Hélène Lazareff, née Gordon, voit le jour à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, le 21 septembre 1909. Son père est un commerçant très riche qui détient le monopole de la fabrication de cigarettes dans l'empire de Nicolas II. Il possède également des imprimeries et des journaux, ce qui fait que pour sa fille, être patronne de presse aura quelque chose de familier. Les Gordons vivent sur un grand pied. Hélène et sa sœur se font par exemple transporter dans la plus grande automobile de la ville. À la maison, on parle français, tout comme à la cour du tsar. Mais c'est précisément parce qu'ils appartiennent à l'élite russe qu'ils se trouvent en danger au moment de la révolution de 1917. Prévoyant, le père avait transféré tous ses avoirs à l'étranger et peut exfiltrer sa famille hors de Russie. Hélène Lazareff a peu parlé de ses années de jeunesse en Russie, ou du moins pas en détail. Voilà ce qu'on peut néanmoins trouver à ce sujet dans la salle des archives, un extrait d'entretien avec Jacques Chancel qui date du 4 septembre 1969.
Je suis née en Russie, j'ai quitté la Russie quand j'étais bébé. J'ai été élevée par mes parents, mettons, dans le 16e. J'ai continué à étudier le russe avec des professeurs de russe, ce qui était bien important pour moi, parce que sans ça, j'aurais jamais su cette langue. Et j'ai fait mes lycées français, j'ai été à Jules Ferry, j'ai été à Victor Duruy, et j'ai fait de l'ethnographie.
Est-ce que vous êtes quand même marquée par le climat russe?
Pas du tout, non. Je l'aime beaucoup, j'adore y aller. C'est un peu une rétrospective, parce que finalement, la Russie, c'est encore le 19e siècle. Et j'ai été très émue, j'y ai été il y a 3 ans et une autre fois il y a 5 ans, et rien n'est plus beau que Leningrad l'hiver, et ça pour moi c'est sacré, c'est d'une beauté absolument extraordinaire, avec la Neva glacée, le son des cloches, les gens qui sortent et qui rentrent des églises, enfin ça c'est un conte de fées.
Claire Blandin, vous êtes historienne, professeure en sciences de l'information à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Que nous dit cette archive sur l'importance de la Russie dans la vie d'Hélène Gordon-Lazareff?
Cette archive, d'abord elle est très belle parce qu'on entend la voix d'Hélène Gordon-Lazareff, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements de sa voix. C'était une femme de l'ombre finalement. Elle conçoit le magazine, elle travaille avec Pierre Lazareff sur la conception des journaux, mais elle est peu en avant, c'est pas tant une mondaine que ça, et elle a été peu présente dans les médias. Sur la Russie, elle avait coutume de dire souvent, apparemment, quand elle était dans une assemblée, il y a toujours quelqu'un de russe. Elle trouvait toujours quelqu'un qui avait vécu en Russie ou qui avait des origines russes. Pour elle, c'était très important, l'histoire de la Russie, la culture russe, la gastronomie, la vodka, ça faisait vraiment partie de son identité, oui.
Vous pensez qu'elle a gardé quoi plus précisément de cette enfance russe? Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu un traumatisme au fond de cet arrachement, de cet exil?
Oui, il y a clairement un traumatisme de l'exil, ça c'est évident, c'est son monde qui s'effondre en fait, hein, clairement avec la révolution et avec le départ à Paris, même si ça se fait dans des conditions matérielles qui sont de bonnes conditions, hein, mais son enfance s'effondre. Et ce qu'elle en garde, c'est le traumatisme, bien sûr, et ça va se répéter dans sa vie, ses exils et ses arrachements, et cette crainte de la révolution et de tout perdre. Ce qu'elle en retient, c'est que quand on a de l'argent, on peut s'en sortir, on peut reconstruire sa vie quelque part.
Donc il est important d'en avoir.
Donc il est important d'en avoir, et il est important d'en profiter, et il est important de le dépenser. Et ce qu'elle garde aussi de cette période d'enfance et de son père, c'est sans doute le sens de la fête, le goût des soirées, le goût des amis, le goût des rencontres.
Cette jeune fille, elle grandit à Paris dans les années 20 et 30. Ça ressemble à quoi, cette adolescence dans Paris, dans un Paris des beaux quartiers?
Oui, alors c'est le Paris des beaux quartiers, c'est le Paris donc de ceux qu'on appelle les Russes blancs, donc de cette émigration russe après la Révolution française. C'est la jeunesse d'une jeune fille de la haute bourgeoisie, hein, qui a la chance de faire des études, qui fait des études supérieures, ce qui est assez rare pour une femme de sa génération.
Et malgré tout, vous écrivez qu'elle se sent à part.
Oui, elle a toujours ce sentiment d'être à part parce que elle n'a pas effectivement sans doute la même famille que ses camarades de classe, parce que elle a cet exil qui est dans son histoire personnelle, et puis elle a cette conviction de devoir faire quelque chose que les autres ne font pas. Ce quelque chose, ça va d'abord être écrire, sans doute, et puis par l'ethnographie dont elle parle dans cet entretien avec Jacques Chancel, elle va aller vers une écriture journalistique à partir des années 1930.
À 18 ans, Hélène Gordon se marie à un ingénieur chimiste du nom de Jean-Paul Rodnitz. Tous les deux ont une petite fille, Michèle. Mais le couple ne se comprend pas. Il paraît qu'ils étaient faits pour s'entendre comme le pape et Joséphine Baker, c'est en tout cas ce que Michèle en dit. Rapidement séparée de son mari, Hélène Gordon devient alors la maîtresse de l'écrivain surréaliste Philippe Soupeau. J'ai justement retrouvé dans la salle des archives un enregistrement où il parle des femmes qu'il a aimées dans sa jeunesse. Peut-être a-t-il pensé, en l'enregistrant, à Hélène Gordon.
Pour le sourire d'une femme, pour un parfum, pour l'ombre même d'un amour, je n'hésitais pas à tout quitter. Tout le long Et elle est longue, la route de ma jeunesse. Je n'ai pas cessé de, je dois l'avouer, d'être épris de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, dont le souvenir aujourd'hui forme une ronde dont je ne cherche pas à m'échapper. Malgré toute ma bonne volonté, je ne puis me souvenir de toutes celles qui, pendant une heure, pendant un jour ou pendant des années, chassèrent mes ennemis intimes, cet ennui incurable, cette difficulté de vivre, cette tristesse de décevoir mes meilleurs amis. Le hasard d'une rencontre, la lumière d'un soir, le scintillement d'un bouquet de fleurs ou le refrain d'une chanson suffisent parfois à faire apparaître l'image toujours aimée, bien que depuis longtemps oubliée, d'une femme que j'ai admirée et que j'ai chérie parce qu'elle était jolie ou sensuelle ou rieuse, comme celle que j'appelais dame de cœur, que j'ai de nouveau aimée en la chantant.
Effectivement, la rencontre avec Philippe Soupeau a été décisive pour Hélène Gordon-Lazareff. Ça lui permet de sortir de son milieu d'origine, de rencontrer alors un premier groupe. Il y a un peu des histoires de groupes dans son parcours de vie. Et là, c'est ce groupe des écrivains surréalistes. Elle joue de sa féminité, elle joue de sa séduction pour rebondir après le divorce. Et Soupeau lui permet aussi, la légende veut qu'elle écrit aussi des articles pour lui, avec lui, donc il y a un apprentissage aussi, qui est un apprentissage à la fois professionnel et social de ce milieu.
Donc Soupeau est très amoureux.
Oui.
Il dit que c'est la femme la plus intelligente
oui.
qu'il a jamais rencontrée.
Oui, alors ça c'est une remarque qu'on retrouve souvent à propos d'Hélène Gordon-Lazareff. Elle fascine ses interlocuteurs par son intelligence, par la précision de sa mémoire. Et c'est vrai que dans la suite du parcours, ça va beaucoup l'aider à réussir.
Alors malgré tout, c'est elle qui rompt avec Philippe Soupeau. Pour quelles raisons? Dans quelles circonstances?
Elle passe quand même d'un amour à un autre très régulièrement, à un rythme assez soutenu. Elle a une peur panique de se laisser enfermer, en fait, par les hommes qu'elle aime.
Et donc, elle est, par exemple, avec Bertrand de Jouvenel,
oui.
Qui a été, pendant longtemps, l'amant de Colette, le très jeune amant de Colette.
Oui, tout à fait. Ça fait partie, là aussi, de ce cercle dans lequel elle va continuer à évoluer dans les années 30, puisque Colette sera une amie proche du couple Lazareff après 1935-36.
Michel Léris. Anthropologue.
Alors, voilà. Oui, Michel Léris, ça va être autre chose, puisque c'est l'ouverture vers l'autre cercle, qui est celui des anthropologues, et que c'est par ses études à la Sorbonne en ethnographie que Hélène Lazareff va vivre sa première grande aventure, hein, qui est donc une expédition en pays Dogon, qui va complètement lui révéler, alors la révéler elle-même sans doute aux autres, qui ne pensaient pas forcément qu'elle serait capable de vivre cette expédition, et lui révéler elle-même ce qu'elle aime faire. Et pour nous, je trouve que c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle va écouter des femmes, en fait. Elle va écouter les pratiques autour de la maternité, dans les coutumes de ce pays Dogon. Donc c'est une première approche, en fait, de la vie des femmes, même si c'est une approche dans un autre espace géographique. Après, ce qui est intéressant, c'est que effectivement son origine sociale, sa culture, son éducation, tout ça lui donne une liberté absolument immense pour une femme de sa génération. Et c'est de cela qu'elle joue. Elle sait, quand elle divorce, que elle va pouvoir rentrer chez ses parents, que la petite Michelle va être bien élevée par la grand-mère, les gouvernantes, etc. Donc il y a cette assurance sociale, si je puis dire, hein, qui lui permet son parcours personnel, intellectuel, et puis effectivement festif tout au long de sa vie.
En 1937, Hélène Gordon rencontre Pierre Lazareff. Il est alors le jeune directeur d'un grand journal intitulé Paris Soir. À partir de ce moment-là, tous les deux vont former un couple soudé par une même vision du travail, un même intérêt pour la presse et une même volonté de réussir. Dans une archive de 1968, on les entend interrogés ensemble par Edith Lansac.
Pierre Lazareff, que serait devenue Hélène Lazareff? Qu'aurait-elle fait si elle ne vous avait pas rencontré, si elle était restée Hélène Gordon?
Elle serait peut-être la plus grande ethnologue du monde aujourd'hui et elle ferait sans doute des cours à Columbia sur la civilisation africaine. Ou alors elle a arrêté journaliste parce que c'était dans sa peau et dans sa vie et qu'on finit par faire les choses qu'on a dans sa peau de sa vie, même quand on ne sait pas qu'on les a, parce qu'Hélène ne savait naturellement pas qu'elle était une journaliste née.
Quel a été votre premier reportage en tant que journaliste, en tant qu'Hélène Gordon journaliste?
Ethnographe. J'avais fait mes études d'ethnographie et j'étais en Afrique. Et en revenant, j'ai écrit tout ce que j'avais vu chez les Dogons en 6 ou 7 papiers. Et je l'ai apporté dans l'immeuble même où nous le trouvons ici et qui s'appelait à l'époque l'Intransigeant. Et qui a publié ce reportage et c'est comme ça que j'ai débuté.
C'est comme ça que vous avez connu Pierre Lazareff.
C'est comme ça que j'ai connu Pierre, oui.
Mais j'ai trouvé ces articles tellement vivants, tellement intéressants, que j'ai demandé à voir l'auteur de ces articles. Ça a été la première fois que j'ai vu Hélène. Et quelques temps après, je l'ai engagée à Paris Soir, un journal dont je m'occupais à l'époque. Elle est entrée à Paris Soir pour s'occuper de la page des enfants, d'abord.
J'adore les enfants. Et ça me plaisait beaucoup. J'aimais dans les enfants, justement, le côté poétique, irréel, l'imagination. Et ça, je me suis beaucoup consacrée à cette page, qui d'ailleurs avait beaucoup de succès. Maintenant, on ne fait plus de pages d'enfants, parce que les enfants ont leurs propres journaux.
Claire Blandin, qu'est-ce que vous entendez dans cette archive ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette archive. D'abord, il y a beaucoup d'éléments sur l'histoire de la presse et l'histoire des médias, qui racontent donc ces médias de la période de l'entre-deux-guerres. La place de ce qu'on appelle le grand reportage, à ce moment-là, hein, il faut se souvenir que la Première Guerre mondiale a été une rupture majeure, puisque les médias de masse qui existaient avant la guerre perdent complètement la confiance des lecteurs en pratiquant le bourrage de crâne. Et en fait, le grand reportage, c'est une manière de reconquérir les lecteurs.
Donc elle est tout de suite là-dedans, elle est tout de suite au sommet de la pyramide journalistique, alors qu'elle est encore vraiment très jeune.
Exactement, elle rentre par cette porte qui est une grande porte. On entend aussi du côté de l'histoire des médias ce que dit Pierre Lazareff, c'est-à-dire que lui, il fait Paris Soir pour Jean Prouveau. Paris Soir, c'est le grand quotidien populaire des années 1930. Et ce que dit Pierre Lazareff dans cette archive, c'est oui, on avait créé une page pour les enfants. Ça, c'est important, ça veut dire qu'on reste dans un journal quotidien qui va chercher à s'adresser à tous les publics et on n'est pas encore vers une fragmentation finalement de l'offre qu'on connaît par la suite avec des titres qui s'adressent à des publics variés et distincts.
Et Hélène Gordon Lazareff, bientôt Lazareff, dit « j'aimais les enfants ». Or, on sait qu'elle s'est finalement très peu occupée de sa fille, que ça a même pu être une source de discorde entre elles.
Effectivement, elle s'est très peu occupée de Michel. Michel lui en a beaucoup voulu, j'allais dire un peu évidemment. Pierre Lazareff, en revanche, s'est beaucoup occupé de Michel Rosier dès qu'ils ont vécu ensemble, et notamment ensuite pendant la période de l'occupation. En revanche, on sait que oui, Hélène Lazareff avait une fascination pour l'enfance, pour les petits garçons en particulier, et qu'il y avait toujours à Louvciennes des enfants qui étaient invités, qui étaient présents. Il y a sans doute un traumatisme de son enfance à elle qui se jouait autour de ça. C'est un peu compliqué a posteriori d'avancer beaucoup d'hypothèses là-dessus. Et c'est par là qu'elle entre en journalisme, puisque c'est avec cette page de Tante Juliette qu'elle entre dans le supplément de Paris Soir, qui va être la première grande création de Hélène et Pierre Lazareff.
Ce qui l'a d'abord intéressée dans le métier de journaliste, ça a été le côté technique. Et la première chose qu'elle a fait après s'occuper de cette page d'enfant, c'est d'apprendre le secrétariat d'action, c'est-à-dire le côté le plus technique de notre métier.
Mais alors comment a-t-elle été accueillie, mettons, par les ouvriers de typographie, par les imprimeurs ?
Eh bien, extraordinairement bien. Dès le départ, vous savez que c'est très rare qu'une femme rentre dans une imprimerie, ça devient de moins en moins rare, mais c'était très rare. Et d'habitude, quand une femme rentre dans un atelier de typographe, il se livre à toutes sortes de mimiques, de cris, de chants, qui d'habitude impressionnent beaucoup les femmes auxquelles ces cris et ces gestes s'adressent. Mais avec Hélène, pas du tout. Il y a eu tout de suite une espèce de sympathie, et puis je crois de respect mutuel.
J'allais beaucoup au marbre, où on m'appelait la souris verte, parce que j'avais un tailleur vert, je crois que c'est venu de là. Et les typos disaient, tiens, voilà la souris verte qui arrive.
Que retenez-vous de cette archive, Claire Blandin ?
Hélène Lazareff a cette capacité à se faire respecter, en fait, dans son monde professionnel. Elle fait une carrière étonnante pour une femme de sa génération, dans ce milieu-là. Il y a très, très peu de femmes patronnes de presse. Et effectivement, elle s'impose par sa compétence sur toutes les étapes de réalisation du journal.
Donc elle ne se laisse pas impressionner quand on l'appelle la souris verte et qu'éventuellement on la siffle à l'imprimerie.
Non, je pense que ça ne l'impressionnait pas du tout, qu'elle laissait dire, qu'elle laissait faire et qu'elle continuait à aller voir dans tous les détails de la réalisation de sa page, puis bien sûr après de son magazine.
Tout comme Pierre Lazareff, Hélène Gordon est issue d'une famille juive. Pour tous les deux, l'avancée de l'armée allemande vers Paris en 1940 est encore plus effrayante que pour le reste des Français. Quand la Wehrmacht entre dans Paris, les Lazareff ont juste quitté la ville. Le 18 juin, ils passent la frontière espagnole et se dirigent vers Lisbonne. C'est depuis cette ville qu'ils embarquent pour les États-Unis le 25 juin 1940. Un deuxième exil dans la vie d'Hélène Lazareff. Claire Blandin, ce deuxième exil, comment est-ce qu'il se passe pour elle et aussi pour Pierre Lazareff ?
Alors, ils le vivent de manière très différente, voire totalement opposée. En fait, ce deuxième exil, c'est un moment de... J'allais dire presque de triomphe pour Hélène, c'est un peu difficile de dire ça, mais quand même, elle est très bien à New York. Elle retrouve des histoires d'amour. Le fait d'être en couple avec Pierre Lazareff n'a pas arrêté sa vie sexuelle, affective par ailleurs. Elle est bilingue en anglais. Elle a déjà fait plusieurs voyages aux États-Unis à la fin des années 1930. Donc, elle a ses repères, y compris ses repères professionnels. C'est-à-dire qu'elle va tout de suite aller au Harper's Bazaar. Elle va tout de suite rejoindre ce monde de la mode, de la presse magazine, et donc découvrir encore plus ce qu'est la presse magazine de cette période. Alors que pour Pierre, c'est vraiment un exil très difficile. Il a quitté tout ce qu'il avait construit. Lui, c'est un vrai Parisien et un homme de presse parisienne depuis son enfance. Pour le coup, il n'a aucun repère aux États-Unis. Il n'arrive pas à parler anglais. Et ce qu'on en garde, c'est qu'il passe pratiquement cet exil enfermé dans son appartement new-yorkais, un peu avec Michel Rosier, justement.
Ce qui peut changer aussi entre eux, c'est la dynamique, parce que c'est elle qui, tout d'un coup, ramène de quoi faire vivre le foyer à la maison, alors que lui, en effet, reste s'occuper de sa fille.
Tout à fait. Il y a une inversion des rôles et une inversion en termes de genre qui est évidemment assez intéressante à ce moment-là dans leur couple, puisque c'est elle qui va les ouvrir au monde, qui leur permet de vivre et qui va lui faire découvrir et leur faire découvrir la société américaine, la société de consommation, et ça, ça va être décisif pour la suite de leur histoire.
Je dois aussi vous dire que j'avais appris beaucoup de mon métier aux États-Unis, où j'avais séjourné pendant 5 ans pendant la guerre, et quand j'ai voulu commencer un journal pour les femmes en France, c'est beaucoup le souvenir de ce que j'avais appris aux États-Unis qui m'a donné le courage de le faire.
Vous avez travaillé au New York Times dans le Women's News et vous étiez aussi au Harper's Bazaar, je crois.
Oui, j'ai travaillé avec Carmel Snow. J'ai eu deux patrons en Amérique. Carmel Snow, qui était la directrice de Harper's Bazaar et qui m'a appris énormément de choses dans le domaine de la mode. Elle m'a appris à analyser la mode, à comprendre une robe, à prendre une robe au sérieux. Et j'ai un autre patron qui était Lester Markell, qui est le rédacteur en chef du Sunday Times, et qui, lui, m'a appris mon métier de journaliste sérieux, c'est-à-dire une espèce de discipline et de rigueur journalistique, et le sens et l'amour de l'information.
Voilà, on peut tous réviser notre accent américain grâce à cet archive de 1952. Claire Blandin, un commentaire ?
Oui, j'aime beaucoup cette expression. Elle m'a appris à prendre une robe au sérieux. C'est tellement Hélène Lazareff comme attitude. Et puis l'autre partie qui est l'information. Il me semble que dans ces deux apprentissages qu'elle décrit pour la période de l'occupation, pour cette période d'exil, ce sont vraiment les deux lignes directrices qui vont ensuite lui permettre de fonder le magazine Elle.
Donc est-ce que vous avez l'impression qu'elle a fait au retour à Paris un magazine américain en fondant Elle?
Oui, elle fait vraiment un magazine américain. Le but de Elle est très clair, elle le dit, c'est de permettre aux Françaises d'entrer dans la société de consommation. Et donc ça, ce sera son leitmotiv pendant 20 ans, puisque voilà, c'est vraiment ce qui va l'occuper de 1945 à la fin des années 1960.
Donc c'est presque politique pour cette femme née en Russie, une Russe blanche qui a été jetée dehors par la révolution bolchevique, qui adore les États-Unis et qui importe, d'une certaine manière, l'American Way of Life en France.
Oui, bien sûr, le projet est politique, elle est clairement libérale. Pour elle, cette réussite du capitalisme est merveilleuse. Tout ce qu'elle a vu aux États-Unis entre 1940 et 1945, c'est la facilité de cette vie, la facilité de cette société de consommation. Elle va faire partie des artisans de la diffusion de ce mode de vie en France après la libération.
Au départ, elle devait s'appeler d'un prénom féminin, un petit peu comme Marie-Claire. Et puis finalement, elle a choisi ce titre de elle. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est finalement un peu révolutionnaire dans le contexte de l'époque?
Oui, c'est révolutionnaire. C'est aussi un coup de génie, hein, parce que c'est très universel, finalement, ce titre. Et bien sûr, il fallait se démarquer de Marie-Claire. Hein. Il faut pas oublier que si elle peut s'installer dans le paysage de la presse à la Libération, c'est que Marie-Claire n'est plus là. Avec un autre élément, c'est que elle est un hebdomadaire, là où Marie-Claire était un mensuel. C'est important parce que ça accompagne les nouveaux rythmes, en fait, de la société française à partir de la fin des années 40 et des années 50.
Donc le nouveau rythme.
Le nouveau rythme, en fait.
Des Français.
Ce qu'on appelle la semaine anglaise aussi, hein, puisque ça va être le début des week-ends qui vont ne se généraliser qu'à partir des années 1960 en France, hein. Mais ça accompagne les formes de loisirs et de consommation.
Les qualités de persévérance et de ténacité d'Hélène Lazareff se révèlent essentielles à la bonne marche de son hebdomadaire. Ces qualités vont pourtant de pair avec un certain autoritarisme et il semble difficile de dire non à Hélène Lazareff. Son mari est d'ailleurs le premier à le reconnaître. Hélène est une vraie patronne.
Hélène est un patron ?
Ah oui, sûrement. C'est sûrement quelqu'un qui... un vrai patron, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle est à la fois très affective et très exigeante pour son journal. C'est sûrement un vrai patron, oui.
Jamais pensé au mot patron, j'ai horreur de ça. Mais pourtant, tout le monde m'appelle Hélène ici quand même, vous savez. Dieu merci.
Êtes-vous exigeante?
Pas du tout et pas assez. Il y a un peu de pagaille générale à cause de ça, parce que les gens viennent un petit peu... Enfin, mes collaborateurs viennent... Je ne sais pas faire la police du tout. Pas du tout, du tout, du tout, et je ne la fais pas. Mais j'ai des collaborateurs, puis je trouve que j'ai beaucoup d'hommes dans mon service. Alors, je ne sais absolument pas commander aux hommes. Ça, c'est pas possible. Avec les filles, je peux plus prendre une décision et tenir tête. Mais avec les hommes, je n'aime pas ça.
Elle avait une forme de management qu'on dirait quand même aujourd'hui assez clairement toxique, puisque les témoignages de celles et ceux qui ont travaillé avec Hélène Gordon-Lazareff convergent sur les formes de chantage affectif, en fait, qu'elle peut mettre en place avec les unes et les autres, les uns et les autres. Denise Dubois-Jallet, qui avait publié une biographie, hein, qui s'appelle La Tsarine, dans les années 1980, qui était une ancienne journaliste de Elle, disait que à la rédaction, tout le monde avait sa pile de lettres d'excuses d'Hélène Gordon dans son tiroir, parce que, voilà, elle s'enflammait, elle s'emportait contre les unes et les autres, et puis tout de suite, derrière, elle écrivait des lettres d'excuses.
Donc, Pierre et Hélène Lazareff, vous l'avez dit, vivent ensemble, mais de façon très libre. Et c'est d'ailleurs ça peut-être qui les lie, parce que ce qui compte, c'est de regarder dans la même direction et en gros de regarder vers la direction du journalisme.
Oui, à Louvciennes, ils vivent chacun, ils ont chacun leur étage, ils ont chacun leur vie personnelle. Pierre Lazareff vit avec Mac Bodard dès cette période-là. En revanche, le dimanche, ils reçoivent le tout Paris des médias, du monde de la politique, des arts, des lettres. Et c'est là qu'ils se retrouvent. Ils ont une complicité professionnelle qui est très précieuse, à laquelle ils tiennent, je pense, l'un et l'autre, qui tient leur couple pendant toutes ces années.
Les Lazareff passent leur fin de semaine dans leur maison à Louveciennes, près de Versailles. Là, ils organisent une vie de château, car telle est la taille de leur petit manoir. À partir de 1956, ils y vivent même durant toute l'année. Et chaque dimanche est l'occasion d'une réception. Sagan, Chaban Delmas, Edmond Charleroux sont des habitués. On écoute cette dernière en parler dans une archive de 1995.
C'était maison ouverte, le dimanche à partir de midi, jusque quelquefois après le dîner, avec une liste de gens complètement contrôlée par le journal, qui allait du comte de Paris à Édouard Herriot, en passant par le président de l'Assemblée, Jeff Kessel, les grands journalistes de toute tendance. Encore une fois, s'il y avait Jeff Kessel, il y avait aussi Pierre Gaxot, qui n'était pas tout à fait du même bord. C'était dans une détente complète. Ça devait représenter des frais de représentation considérables. Naturellement, il y avait la commère de service qui était là, qui était Madame Tessier, et qui était vraiment celle qui faisait la rubrique des potins. Et qui d'ailleurs s'appelait les potins de la commère, et qui se nourrissait des contacts qui étaient faits. C'était très savant, c'était pas du tout du mondanisme. Hein. C'était une façon de faire du journalisme tout à fait courante en Amérique, et dont les Lazareff, qui s'étaient exilés, pendant toute l'occupation allemande, avait appris aux États-Unis les derniers, disons, toutes les dernières trouvailles techniques de la presse américaine, qui était en avance de 25 ans sur la presse française. Et entre autres, cette réception tous azimuts qu'ils avaient pratiquée en Amérique.
Que pensez-vous, Claire Blandin, de ce document ?
Alors, c'est un très beau document parce que Edmond Charleroux raconte très bien cette ambiance, en fait, hein, particulière, avec des invités qui sont de tous les partis. Hein. Il décrit ce paysage politique de Pierre Gaxot à Kessel. La légende veut que seul De Gaulle n'ait pas mis les pieds à Louveciennes pendant cette période.
Mais Pompidou,
Pompidou, ah ben, on a fait l'élection de Pompidou à Louveciennes, c'est assez clair. Hein. Il débarquait apparemment en deux chevaux, tranquillement, le dimanche. Mais d'autres arrivaient en hélicoptère. Enfin, voilà, il faut imaginer le faste que ça a été. Bien sûr, tout ça payé par le journal. Hein, ça fait partie de la vie du journal à cette époque.
Dans cette décennie 60, qui voit le titre en pleine gloire, Hélène Lazareff invente un magazine nouveau. Elle fabrique un média de masse, lu tous les mois par plusieurs millions de Français et surtout de Françaises. Mais quel est le message véhiculé par elle ? Quelles sont les positions politiques du journal ? On va voir qu'elles ont fait l'objet de batailles, tout de suite dans le deuxième épisode.